Chers frères et sœurs, c'était hier la date prévue pour la relance du mouvement du christianisme social. Un mouvement bien connu de notre Église, puisque d'importants animateurs de ce mouvement furent pasteurs ici même, et que le christianisme social est l'une des racines de l'identité de notre Église, de l'Oratoire du Louvre. Le christianisme social recouvre bien des aspects différents, et ceux qui entendent le promouvoir n'ont pas forcément une position unanime sur ce qu'est le christianisme social, ni sur ce qu'il devrait être. En revanche, on peut dire que tous ont en commun le souci que le christianisme ne soit pas confiné dans une spiritualité sans conséquence, une spiritualité qui oublierait le sens du service, le sens de la justice sociale, le sens de l'entraide. Et tous ont en commun également de devoir penser le rapport que la religion entretient avec le champ politique. Puisque la justice, l'entraide, le soin de l'autre, évidemment, relève du champ politique. Et c'est là que les choses se compliquent, évidemment. Vous le pensez bien. Le plus souvent, ce rapport est envisagé à partir de deux textes bibliques. L'un convoqué pour justifier une séparation absolue entre l'Église et la politique. C'est la réponse de Jésus à la question qui lui est posée sur l'impôt dû au Temple. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis il y a un autre texte pour faire valoir que l'Église est juge du politique, que l'Église est au-dessus du politique. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres un texte qui dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On pourrait convoquer également l'apôtre Paul qui dit qu'il faut se soumettre aux autorités. À chaque fois, ces versets sont tirés de leur contexte. Et il n'offre pas, je trouve, un bon support à cette réflexion qui est, somme toute, assez problématique. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose la lecture d'un passage auquel vous n'êtes peut-être pas très habitué, qui se trouve dans le livre de Josué. C'est au chapitre 5. C'est au moment où les Hébreux viennent d'entrer en terre promise. Et la première chose qu'ils font, après avoir posé 12 pierres, une par tribu, c'est ceci. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline des Haralot. En français, colline des Prépuces. Voilà une colline qui porte bien son nom. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition de la nation des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays découlant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place. Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis du fait qu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils vivent. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent des productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. La manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent des productions du pays. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir votre petit livre bleu, notre recueil de chants, louanges et prières, dans lequel nous chanterons au cantique 222, les trois strophes qui nous permettront de nous placer en tant qu'ouvriers de Dieu à l'écoute de ce texte. Dieu notre Père, tu as les paroles pour dire que tu t'es mêlé à notre histoire comme la semence à la terre et que la transfiguration des vivants est sur le point de s'accomplir. Dieu notre Père, tu as les paroles pour aimer jusqu'à l'offrande dernière, pour enfuir la puissance d'amour dans le cœur des vivants et en faire la charpente du monde à bâtir. Dieu notre Père, tu as les paroles pour agir selon la justice et la droiture, pour renverser les dominations qui internent la grandeur des vivants et pour donner à chacun mission d'évangile. Dieu notre Père, toi qui as les paroles pour vivre, fais-nous entendre ta parole. Chers frères et sœurs, ce passage de Josué me semble effectivement assez efficace pour nous interroger sur le bon positionnement de l'Église vis-à-vis du politique. Peut-être contre toute attente, me direz-vous, car vous n'y avez peut-être pas forcément lu un traité spécialement théologico-politique. Il y est question de circoncision, mais ce n'est pas un traité sur la circoncision. Il y est question de la célébration de la Pâque, mais ce n'est pas un traité sur la célébration de la Pâque. Je vous propose de voir en quoi ce texte peut être une sorte de traité théologico-politique. Alors effectivement, tout commence par le récit de la circoncision des fils d'Israël, au moment où ils entrent dans cette fameuse terre promise, terre découlant de lait et de miel. On peut s'étonner sur la longueur des explications données au sujet de cette circoncision. C'est long et douloureux, certainement comme va l'être le début de cette prédication d'ailleurs. Il faut être fidèle au texte. On peut s'étonner de l'importance des détails qui sont donnés au sujet de cette circoncision et du nombre de détails pour justifier la circoncision des fils d'Israël. Alors que cherche à nous faire comprendre ce texte? Eh bien, une lecture et une relecture et d'autres lectures encore montrent que ce texte travaille sur un jeu d'opposition entre les différents protagonistes de l'histoire. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ceux qui sont nés dans le désert. Ceux qui étaient circoncis, ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui sont morts dans le désert, ceux qui sont entrés en terre promise. Et ce jeu d'opposition s'articule autour de deux termes qui sont en quelque sorte les nerfs de ce texte, le mot « peuple » et le mot « nation ». C'est un peuple qui sort d'Égypte, c'est une nation qui meurt en route, c'est une nation qui entre en terre promise et qui va être circoncise. Derrière ces mots « peuple » et « nation », il y a les mots hébreux « âme » pour « peuple » et « goy » pour « nation ». Goy qui n'a pas du tout une notion religieuse. Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'une nation? L'examen des données bibliques nous révèle que la nation, Goy, est une entité à caractère politique. Quand Goy est utilisé dans les textes bibliques, c'est pour désigner une entité à caractère politique qui tisse un lien juridique, administratif, une entité indivisible qui se rassemble autour d'une figure de pouvoir, en l'occurrence le roi, dans les textes bibliques. La nation forme un tout. C'est une entité de laquelle n'émerge aucune individualité. Dans les textes bibliques, le peuple, âme, se construit plutôt sur le lien de parenté, selon un principe familial. Soit le père, soit l'oncle représente la figure autour de laquelle se tisse le peuple. Et c'est le principe de l'alliance interpersonnelle qui constitue la trame du peuple. Le peuple, cette entité qui s'appuie sur les caractéristiques particulières des individus qui le composent. Revenons maintenant à notre texte et voyons comment cette distinction entre peuple et nation éclaire l'histoire des Israélites depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Canaan. C'est donc un peuple qui sort d'Égypte. Puis il y a la révolte. Les Israélites n'écoutent plus Dieu. Ils ne veulent plus entendre parler de sa promesse, au point que, nous dit le livre du Deutéronome, Dieu anticipera le fait qu'Israël voudra faire comme tout le monde et être une nation comme les autres, avec un roi à sa tête. Et c'est justement là, au moment de la révolte, que soudainement, il est question de nation. La nation de tous ces hommes qui n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Une partie de cette nation meurt en route avant d'entrer en Canaan. L'autre partie, composée des fils de ces gens-là, entre en Canaan après un périple d'une quarantaine d'années. Et c'est cette nation qui va être circoncise. Et comment se finit ce passage? Comment finit cette histoire du peuple hébreu? Par une formidable faute de grammaire. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils vivent. Un mot au singulier, nation, devient sujet de verbe au pluriel. Alors, c'est faux sur le plan grammatical. Les jeunes enfants, ne faites pas cela, ça ne marche pas. Mais c'est juste sur le plan théologique. Ce que nous dit ce texte, c'est que la circoncision a eu un pouvoir transformateur sur cette nation. La circoncision a transformé cette masse sans visage, sans nom, la nation, en un peuple, constitué d'êtres singuliers, unis par le principe d'une alliance interpersonnelle, dont la circoncision, nous le savons par le livre de la Genèse, est le signe visible, du moins pour la gente masculine. Ce texte révèle donc ceci. La relation que l'Éternel espère avec l'humanité relève du peuple et non de la nation. Ou dit autrement, Dieu connaît des personnes et non des groupes d'hommes de type État-nation qui laissent les individus dans l'anonymat. Et c'est là le premier point que je note pour notre question de départ sur le lien entre le religieux et le politique. Le théologique n'est compétent que sur le plan interpersonnel. Le théologique a des outils pour s'adresser à des personnes, pas à des groupes anonymes comme l'est une nation. Le théologique peut accompagner la réflexion des individus. Il n'est pas en mesure de pouvoir développer une politique d'État. Par exemple, un parti chrétien n'aurait certainement pas de sens, car il ne disposerait pas, avec sa réflexion théologique, des outils nécessaires pour établir un programme de gouvernement. Alors, bien sûr, des fois, la tentation est forte en Église de donner des leçons à ceux qui nous gouvernent. Eh bien, dans ce cas, il me semble qu'il serait bon de se rappeler à un peu plus d'humilité et de ne pas perdre de vue nos limites. De notre foi en Dieu ne découle pas directement une politique qu'il suffirait d'appliquer à la lettre. Et c'est pour cela, par exemple, en matière d'éthique, que le protestantisme ne développe pas une éthique de principe qui pose des règles universelles et intangibles, valables pour tous les temps, quelle que soit la situation, mais qu'il élabore une éthique de responsabilité qui tient compte aussi des personnes et des situations. Et à ce propos, nous pouvons aussi nous souvenir que le psaume 23, un psaume bien connu s'il en est, nous dit qu'il n'y a pas un chemin de la justice, mais des chemins de la justice. Bref, cela devrait nous rendre attentifs au fait que l'Église serait bien mal inspirée de dire aux responsables politiques « voilà ce qu'il faut faire ». Même si des fois les hommes politiques seraient heureux qu'on leur dise cela. Il faut que nous résistions à cette tentation. Alors cela ne vaut, bien entendu, qu'à la condition que le politique soit légitime. Et ce passage peut donner l'impression de discréditer le politique, de discréditer le lien politique et de reléguer la nation à ce qu'il y a de pire et qu'il faudrait éviter à tout prix, en la mettant à mort par une traversée du désert conduite dans les règles de l'art. Mais il me semble que la suite du texte biblique nous suggère bien autre chose. Et là encore, les détails peuvent nous sembler bien inutiles, mais je crois qu'ils ont leur sens. À quoi bon parler de la célébration de la Pâque à ce moment-là? Et à quoi bon parler de la fin de la manne? Est-ce que franchement, ça change notre vie? Alors cela peut être une manière de dire que l'Exode est fini, la parenthèse du désert est refermée, et nous pouvons passer à l'étape suivante. Mais précisément, que nous apprend cette étape suivante ? Que la manne cesse et que les Israélites mangent désormais du produit du pays où ils se trouvent. C'est la fin de la manne, cette nourriture offerte quotidiennement par Dieu dans le désert pour répondre aux besoins du peuple qui, évidemment, n'avait pas de quoi se nourrir autrement. C'est la fin de la manne, cette nourriture reçue directement de Dieu. C'est donc le temps du sevrage. Désormais, le peuple est en mesure de vivre sans être relié à la mamelle de Dieu, pour filer la métaphore. Le peuple est en mesure de trouver ici-bas, sur terre, ce qui lui est nécessaire pour vivre. Cette Pâque qui a été célébrée comme elle l'avait été autrefois au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la sortie de la maison de servitude, au moment de cet acte de libération voulu par Dieu, indique que Dieu libère à nouveau, encore et encore. Et de quoi le peuple est-il libéré ? Par l'indication que la manne cesse, le texte indique que le peuple est libéré de Dieu lui-même. Dieu libère son peuple d'une sorte de dépendance totale à son égard. Désormais, Israël n'est plus un enfant qu'il faudrait prendre en charge totalement. Israël est sevré de Dieu lui-même, selon la volonté même de Dieu. Le peuple de Dieu devient adulte, majeur, et Dieu ne sera plus une sorte d'État-providence qui garde le contrôle des individus. Et je vois là les bases de la sécularisation qui sera théorisée quelques siècles plus tard, au XXe siècle, par Friedrich Gogarten. Dieu ne cherche pas à nous maintenir dans un état d'enfant, dit ce théologien protestant, mais à nous élever au statut de fils et de filles, majeurs, capables d'assumer nous-mêmes notre propre vie et de faire nos propres choix, en âme et conscience en quelque sorte. Dieu ne nous maintient pas sous tutelle, mais s'adresse en nous disant « Tout est à vous ». Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que tout est permis, mais tout n'est pas nécessairement utile. Toujours est-il que ce passage pose les bases de cette sécularisation, où Dieu nous institue libres et responsables, nous laissant le soin de faire bon usage de ce qui est à notre disposition. Et alors, le politique est la réponse humaine à cette responsabilité offerte par Dieu. C'est la manière que les hommes ont de s'organiser pour préserver cette liberté et pour l'assumer. Ainsi donc, loin d'être discrédité, le politique est ici remis à l'honneur, dans la mesure où le politique est ce qui permet à l'humanité de préserver la vivacité de cette liberté voulue par Dieu, et de coordonner, d'harmoniser les élans des uns et des autres. Et c'est pour cela que Paul recommandera d'obéir aux autorités. Le politique est donc tout à fait légitime dans une perspective théologique, et il occupe une place que l'Église ne saurait revendiquer. Alors cela signifie-t-il que la séparation entre les deux doit être totale ? Et que le christianisme social, finalement, n'a pas de raison d'être. Léger frémissement dans l'Assemblée. À la lumière de ce que je comprends, de ce texte biblique et de ce que je vous ai exposé, il me semble que la pertinence du christianisme social, si elle a pu être faible ces dernières années, retrouve une acuité toute particulière de nos jours, en raison de ce que le monde est devenu. Il y a un siècle, Les États-nations étaient forts. Ils faisaient ou défaisaient l'histoire. C'était encore l'époque où les nations déclaraient la guerre à d'autres nations. Je crois qu'il n'y a plus eu de déclaration de guerre depuis les années 40, mais je me trompe peut-être. Les nations pouvaient se penser toutes puissantes, et il importait alors qu'il y eût des contre-pouvoirs efficaces pour que les individus ne fussent pas broyés. Et certainement, le christianisme social a pu jouer un rôle en ce sens, un rôle positif, à la manière des prophètes de l'Ancien Testament qui rappelaient le droit des personnes. Et puis, les États-nations ont perdu de leur superbe, ont perdu du pouvoir au profit du monde financier qui a pris une partie des rênes. Les investisseurs se sont avérés finalement plus puissants que certains États, détenteurs d'une puissance et d'une capacité de décision sur le cours de l'histoire, capables de faire ou de défaire l'histoire, de faire ou de défaire des gouvernements, de susciter de très belles entreprises et de confondre dans la tristesse et la misère certaines régions. Là, le christianisme social, à vrai dire, a été bien en peine de trouver les bons interlocuteurs, car les forces en présence, les marchés mondiaux, les supermarchés de la finance, sont difficilement identifiables. Et certainement, l'Église s'est souvent trompée de cible en fustigeant les décideurs politiques, qui, en fait, n'avaient plus toutes les commandes. Il n'en demeure pas moins vrai que l'Église a su aussi être présente auprès des plus faibles, redonnant un visage et une dignité à celles et ceux qui ne valaient plus grand-chose au regard des enjeux colossaux qui étaient sur la table. De nos jours, la situation a encore changé, avec la révolution numérique. Et il me semble que l'Église et notamment le mouvement du christianisme social ont certainement un rôle à jouer spécifique désormais dans cette nouvelle configuration. Cette nouvelle configuration, c'est que désormais, les individus peuvent peser autant que les États-nations. La globalisation et la mise en réseau des systèmes donnent désormais aux individus un pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là. Le 28 août 1998 me semble l'une des dates qui marque ce tournant décisif. La France est encore tout à son bonheur d'avoir gagné la Coupe du monde de football, quand le 7 août, des attentats sont perpétrés contre les ambassades américaines de Nairobi et de Dar es Salaam. Celui qui est identifié comme l'auteur ou le commanditaire de ces attentats est un certain Oussama Ben Laden. Nous sommes le 7 août 1998. Le 20 août, les États-Unis d'Amérique lancent 75 missiles de croisière à 1 million de dollars pièce contre lui à Jalalabad. Ce 20 août 1998 est la première bataille de l'histoire entre une superpuissance et un homme. Alors, nous l'avons vu, le théologique n'est pas compétent au niveau de la nation, de la masse indivise, mais il l'est au niveau individuel. Et parce que ce niveau individuel prend aujourd'hui une ampleur jamais connue jusque-là, il me semble que le théologique peut être pertinent dans le champ politique sur cet aspect-là, notamment en évitant de produire lui-même de sortes de monstres. Mais songeons aussi que pour se protéger de la montée en puissance des individus, songeons que même le plombier polonais peut être une menace pour une nation, les États peuvent être tentés de restreindre les libertés individuelles, de corseter les initiatives individuelles et de maintenir les individus dans une sorte de dépendance à leur égard. Et sur ces aspects, certainement, l'Église doit rester vigilante. Par ailleurs, le théologique peut aider les individus. Il peut les aider à se protéger contre cette montée des individualismes par une action d'éducation et d'accompagnement personnalisée. Le christianisme social, c'est offrir aux personnes en difficulté d'autres réponses que les seules réponses financières, qui en général ont un effet très limité. Par exemple, le christianisme social peut s'adresser à des personnes pour développer leur employabilité, qui ne passe pas que par l'acquisition de compétences techniques, mais aussi par une nouvelle estime de soi, une nouvelle représentation de soi, par un rapport dédramatisé à la société, par la proposition de relations interpersonnelles qui ne sont pas régies par la méfiance, voire par la violence. Au fond, le théologique peut aider tout un chacun à envisager sa place dans la société selon le régime du peuple plutôt que celui de la nation, et considérer que le motif de l'alliance, de la relation interpersonnelle, est un modèle viable. Le christianisme social peut rendre possible et disponible pour tout un chacun l'espérance que Dieu suscite et qui manque à tant de personnes qui ont perdu toute motivation ou qui sont tout simplement désabusées, les bras leur en tombant de chaque côté du corps. Le christianisme social peut effectuer encore de nos jours la geste de Josué qui consiste à redonner une existence et une place à chacun par cette circoncision qui, métaphoriquement, indique que chacun est reconnu pour un être singulier et qu'il a sa place ici-bas sur terre. Chacun de nous peut encore, de nos jours, à la manière de Josué, prendre soin de chacun jusqu'à ce qu'il vive. Amen.